développement de la relation de soins par les sciences contemplatives. Donc elle sera notre invitée la semaine prochaine. Donc à mercredi prochain, salut et solidarité.
Cause commune.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous convions aujourd'hui au Café Libre. Nous y discuterons des actualités autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Également au programme, une nouvelle lecture buissonnière de Vincent Calam, La guerre de l'information. Et en fin d'émission, rediffusion d'une chronique d'Antanac sur l'identité numérique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 13 mai, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et j'en profite pour saluer celles et ceux qui nous écoutent peut-être en rediffusion sur Radio Cigaloun ou sur Radio Libre en Périgord. À la réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie.
Bonjour.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par une nouvelle lecture buissonnière de Vincent Calam, ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Aujourd'hui, alors salut Vincent.
Salut Étienne.
Aujourd'hui, je crois que tu souhaites nous parler de La guerre de l'information de David Colomb.
Exactement. Alors, donc David Colomb est un historien, chercheur et professeur à Sciences Po, spécialiste de la communication de masse. Il se trouve que j'assistais à une conférence grand public à laquelle il participait à la bibliothèque Melville, dans le 13e arrondissement, métro Olympia. Je fais un peu de publicité au passage. Et au cours de laquelle il a dit beaucoup de mal de Facebook et de X, ce qui, vous le comprenez, me l'a rendu tout de suite sympathique. J'ai donc voulu en savoir plus et lire son ouvrage. Alors, évidemment, si j'en fais une chronique aujourd'hui, c'est que je l'ai trouvé très intéressant, que je vous en conseille la lecture. L'ouvrage est un vrai travail d'historien qui ne se contente pas de traiter de l'actualité des dernières années, mais remonte quelques décennies en arrière. C'est d'ailleurs sur cette partie historique que j'aime concentrer dans ma chronique. En effet, David Colomb commence son ouvrage parce qu'il considère comme l'événement déclencheur de la guerre de l'information, la première guerre du Golfe de 1991, celle qui opposa une large coalition menée par les États-Unis aux troupes irakiennes de Saddam Hussein qui avaient envahi le Koweït. Alors, bien sûr, propagande et désinformation n'ont pas attendu 1991 pour être utilisées par les belligérants au cours d'un conflit. Le 21e siècle abonde d'exemples que cite par ailleurs David Colomb. Mais la première guerre du Golfe est la première guerre diffusée en direct, ce que permet la télévision par satellite, et où une chaîne particulière va jouer un rôle essentiel, CNN, le modèle de la chaîne d'information en continu. Créée en 1980, elle est spécialisée dans la diffusion d'événements non-stop et est devenue un acteur incontournable de l'information mondiale. Preuve de son poids, le journaliste de CNN est le seul journaliste occidental autorisé à demeurer à Bagdad au cours de la guerre, et les officiels du gouvernement de Saddam Hussein passeront par ce canal pour tenter de s'adresser au public mondial. Cependant, la première guerre du Golfe se caractérise surtout par une réflexion très poussée de l'armée états-unienne sur la manipulation de l'information. Il était hors de question de reproduire le précédent de la guerre du Vietnam, où les journalistes possédaient une très grande liberté d'action et montrèrent la réalité de la guerre. Que l'on songe à la célèbre photo de la petite fille brûlée au napalm qui fit la une du New York Times. Ici, les journalistes furent embarqués, unbended, dans les unités pour les plus chanceux ou confinés dans les centres de presse pour les autres. Jamais un conflit n'avait été couvert par autant de journalistes et de médias, avec aussi peu de sources de diversifiées d'informations. Toujours est-il que cette maîtrise de l'information, ou soubien en amont pour ce qui est de l'acceptation de la guerre par les opinions publiques au cours des opérations, fut un succès, qui va faire réfléchir tous les gouvernements du monde, qu'ils soient alliés, neutres, simples concurrents, anciens ou nouveaux adversaires des États-Unis. Chacun va développer sa chaîne d'information au cours des années 1990. La réussite la plus éclatante est la chaîne Al Jazeera, qui va placer le Qatar sur la carte mondiale, bien avant le mondial de football, et qui va jouer un grand rôle après le 11 septembre 2001. Alors, je n'ai pas la place aujourd'hui de développer sur cette période. Rappelons que la deuxième guerre du Golfe et l'invasion de l'Irak furent aussi un sommet de manipulation de l'opinion avec les fameuses armes de destruction massive prétendument détenues par Saddam Hussein. Je pense que le discrédit général dont soufflent les médias doit beaucoup à cette période. Un autre intérêt de l'approche de David Colomb est d'aborder le sujet par le prisme des doctrines militaires. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si son ouvrage a reçu un prix organisé par l'armée de terre française. En effet, les doctrines militaires se déploient sur le temps long. Elles ne sont au début l'affaire que de spécialistes et elles infusent lentement dans tout l'appareil d'État. Elles sont révélatrices de la paranoïa et de la volonté de puissance des uns et des autres. Paradoxalement, alors qu'elles concernent les guerres secrètes, elles sont assez limpides et annoncent la couleur. Par exemple, dans les années 90, les États-Unis développent le concept de « domination informationnelle », dont l'intitulé veut tout dire. On parle même de « complexe militaro-informationnel », nouvelle version du complexe militaro-industriel. En 1999, deux officiers de l'armée chinoise publient « La guerre au-delà des limites », qui date de la première guerre du Golfe, l'apparition d'un nouveau type de conflit, alors là je cite David Colomb, dans lequel les belligérants n'utilisent plus uniquement la force armée pour obliger l'adversaire à se soumettre à leur volonté, mais tous les moyens, y compris informationnels, pour contraindre l'ennemi à accepter leur intérêt. La frontière séparant militaire et non-militaire est dorénavant abolie, le champ de bataille est désormais situé partout. Donc cela date de 1999 et cela n'a pas pris une ride. Cette notion de guerre sans limite est très importante, car dans les premières définitions de la guerre de l'information, celle-ci intervenait en complément du conflit conventionnel et comprenait aussi bien la disruption des infrastructures ennemies que l'action sur le moral. Dorénavant, la dimension psychologique devient fondamentale. Il s'agit de gagner la guerre sans la mener. Alors en matière de doctrine, ce sont cependant les Russes, forts de l'expérience du KGB pendant la guerre froide, qui vont pousser le plus loin la réflexion et qui surtout vont mettre en action cette doctrine. Mais ça, je vous propose de l'aborder dans la suite de ma chronique le mois prochain. Alors avant de rendre le micro, vous remarquerez que je n'ai à aucun moment parlé d'Internet et que je me suis contenté aux années 90. C'est ce que j'ai trouvé d'éclairant dans l'ouvrage de David Colomb. Internet et surtout les réseaux sociaux ont donné à la guerre de l'information une ampleur inimaginable, mais tout était en germe dans les décennies précédentes. Cela n'est pas sorti de nulle part.
Merci beaucoup Vincent pour cette effectivement perspective historique sur un sujet qu'on peut difficilement dire qu'il n'est pas d'actualité. Et ben, il me tarde d'écouter la suite de ta chronique le mois prochain donc.
Exactement.
Parfait, merci beaucoup. Et à présent, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous vous donnons rendez-vous au Café Libre pour discuter des actualités autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Avant cela, nous allons écouter Lemony par Minda et Lessie. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Lemonade, 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 there are too many, too many, too many, too many lemons in my pie. The pie was lemonade, 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 there are too many, too many, too many, too many lemons in my pie. In the chimney, chimney told me you ought to be what you want to be, or you may as well be asleep, or cooking the amphetamines, cause chimney knows that amphetamines are good for a hell of a lot of it. Things like clearing up the skies and cooking lemonade pies. Amphetamines, amphetamines, amphetamines were taken by the anemones, and the anemones gave the amphetamines to the enemies. And this lemonade, 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 the too many, too many, too many, too many lemons in my pie. Too many, too many, too many, too many lemons in my pie. cram in the gym and I found him. It crammed up in the gym and it must have been from all the yummy amphetamines he'd been a-giving me. And they were limited, oh so limited, it sunk right to the pit of me. And I thought that he was shitting me when he brought up the possibility of us finding the anemones to locate the enemies and reclaim our oh-so-precious abilities of making a limited pie is just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. Too many lemons in my pie. The pie was lemon. Too many lemons in my pie.
D'écouter Lemony par Mintal et ici disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. C'est Seba et ça, et j'avais eu le grand plaisir d'interviewer cet artiste en 2022 pour une émission spéciale faite de la musique libre. Elle y parle notamment de l'écriture de ce morceau. Un échange à retrouver sur la page de l'émission 148, libreavoue.org/148.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Passons maintenant à notre sujet principal. Bienvenue au Café Libre, où nous allons discuter des actualités autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Avec moi autour de la table, une équipe de choc. De droite à gauche, Bookinette, libraire et infatigable présidente de l'April. Salut Bookie.
Salut Etienne.
Pierre Bessac, informaticien, libriste de longue date et fondateur d'Aeriomen.net, un service de stockage de fichiers. Salut Pierre.
Bonjour tout le monde.
Et enfin Vincent Calam, informaticien, bénévole à l'April, qui entre deux chroniques pour Libre à vous s'occupe du site web de l'émission et de la base de données des musiques libres que nous diffusons. Salut Vincent.
Salut à nouveau.
N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavoue.org/247. Alors pour commencer, je vous propose de parler de choses plutôt réjouissantes, hein, mai et juin étant une période de très riche en événements libristes. Alors je vous propose une petite liste non exhaustive, hein, mais alors le 15 mai, rencontre professionnelle du logiciel libre à Lyon, 24-25 mai, journée du logiciel libre à Lyon toujours, le Faire Festival du 22 au 24 mai à Toulouse, une rencontre April le 30 mai, hein, dans notre local à Paris, les Geek Ferries du 6 au 8 juin, la Selle sur Cher, du 13 au 15 juin, un congrès OpenStreetMap France, le State of the Map aura lieu à Tours. Voilà, donc déjà une belle proposition, puis on a plein d'autres à retrouver sur l'agenda du libre. Première question générale, est-ce que vous serez à certains de ces événements? Alors Bookie, tu parleras en dernière parce que je sais que la réponse sera oui plusieurs fois. Donc Vincent, est-ce que t'as prévu d'être présent?
Oui, au JDLL, aux journées du logiciel libre à Lyon, pour une conférence. Je vais justement présenter le logiciel qui est derrière la base de données des musiques libres. Et je vais prendre la base des données des musiques libres comme exemple, en espérant que ça créera des vocations et des propositions. Voilà, alors ce sera dimanche à 13h, malheureusement en même temps que ta conférence.
Ah oui,
c'est mal tombé là-dessus. Mais voilà, moi je ferai l'aller-retour dans la journée, mais j'aurai tout aussi plaisir à aller voir des stands de l'April, parce que je pense qu'il y a un stand de l'April.
Oui, il y aura un stand de l'April. Bah, la plupart des événements que j'ai cités, je crois qu'il y aura un stand de l'April. De toute façon, les quads libres en fin d'émission, je récapitulerai, mais on va dire peut-être en parler là. Et effectivement, moi je propose une conférence très sérieuse sur l'action de plaidoyer politique qui s'appelle Députés attraper les tous. voilà, que j'avais déjà eu plaisir de présenter à Toulouse et qui avait eu voilà, je m'étais bien marré à la faire et donc j'ai eu envie de la proposer à nous. Tu connais les JDLL, journée du logiciel libre, on dit JDLL en train de dire, c'est vrai que c'est un des principaux événements libristes en France.
Alors, je connais pas la nouvelle formule à l'ENS, hein. Je connaissais à l'ancien lieu, mais en tout cas, ça a toujours été très, très sympathique. Et puis, Lyon est une belle ville. toujours l'occasion d'y aller fait toujours plaisir. Et en tout cas, alors c'était dans un autre lieu, mais il y avait du monde, hein. Ça, il drainait beaucoup de personnes.
Oui, avec le Capital du Libre à Toulouse, alors qui est plutôt en fin d'année, ça fait vraiment partie de ces événements. Il y a beaucoup de monde et c'est de beaux événements libristes, c'est vrai. Pierre ?
Moi, cette année, je fais mon gros flemmard. Je reste tranquille ce printemps. Alors, les JDLL à Lyon, j'y suis allé l'an dernier. Et le parc de l'ENS est magnifique. Donc, c'est vraiment...
Ah, c'est splendide.
Rien que pour le parc, c'est super agréable. Ouais. Et puis, évidemment, les conférences, il y a toujours des choses super intéressantes. Pour State of the Map, il y a plein de contributions. Alors, c'est pas un truc de gourou de la cartographie. C'est ça qu'il faut voir. C'est plutôt une réunion de contributeurs OpenStreetMap. Donc, c'est très ouvert. Il y en a pour tous les niveaux. Donc, ça permet de découvrir plein d'usages. Des cartographies libres, des choses complètement inattendues en fait. Donc je pense que je vais suivre au moins les replays qui en général c'est disponible en ligne après. La plupart des conférences diffusent les vidéos, donc je ferai ça. Et parfois c'est disponible en direct également.
Est-ce que tu sais un événement parce que c'est un format de congrès si je me trompe pas. C'est vraiment ouvert aux contributeurs contributrices ou n'importe qui intéressé.
N'importe qui peut venir. Hein, je crois que l'entrée est libre ou alors si une participation frais c'est vraiment pas cher. Hein, c'est pas des conférences réservées aux professionnels, donc c'est plutôt le style universitaire. Voilà, en général, c'est dans des universités. Là, c'est l'université de Tours.
Donc, si on veut découvrir, si on est intéressé par OpenStreetMap, mais qu'on n'est pas encore membre de la communauté, mais qu'on aimerait peut-être la découvrir, ça peut être une bonne occasion
de le faire.
C'est
une excellente entrée en matière. Alors, pour les gens qui sont dans la région de Tours, allez-y, profitez-en. Puis pour ceux qui ont la possibilité de faire le voyage aussi, ça vaut le coup.
Enfin, donc je rappelle, voilà, c'est effectivement à l'université de Tours les 13 et 15 juin. Alors, Bouquinette, toi, oui, je sais que tu seras présent. À quel événement? Peut-être que ça ira plus vite si tu nous disais là où tu ne seras pas, mais voilà. Période riche en événements, mais en juin.
Je ne serai pas au State of the Map à Tours. Voilà. Et je ne serai pas au Fair Festival du 22 au 24 mai à Toulouse, parce que ça tombe un peu en même temps que les JDLL, où moi aussi, je ferai une conférence. Ce ne sera pas vraiment une conférence, en fait, ce sera une table ronde pour parler de podcast. Donc Isabella de l'April sera là pour venir passer justement, pour venir parler pardon, de Libre à vous. Mais il y aura d'autres gens comme Benjamin Bellamy que vous connaissez, comme Walid avec qui on va faire un enregistrement April dans les mois à venir. Et puis il y a d'autres monsieur dont je suis désolée, j'ai oublié le prénom, il a qu'à répondre à mes mails. Peut-être que c'est Cédric, mais j'en suis pas sûre.
Ça balance.
L'appel est passé. Voilà.
Voilà, donc ça c'est ça sera des JDLL. Le Fair Festival, c'est quelque chose qui est organisé à Toulouse, donc j'y serai pas, mais surtout je voulais vous parler des RPLL, donc les rencontres professionnelles du logiciel libre qui ont lieu jeudi 15 mai, c'est-à-dire dans 2 jours.
Voilà, dans 2 jours si vous écoutez en direct et il y a X jours si vous écoutez en podcast.
Et oui, j'aurai l'honneur de présenter l'April avec une des administratrices qui s'appelle Françoise Conil. Et on a choisi un nom qui tape adhérer à l'April, c'est faire preuve d'un engagement fort et visible au logiciel libre. Super titre, en espérant qu'on aura du monde. Et le dernier événement où j'ai envie de vous parler, c'est les Geek Ferries. C'est un lieu où on va... Un événement qui a pas du tout un air libriste. Hein. C'est plutôt des geeks. Alors, pas des geeks de l'informatique, hein, des geeks de l'imaginaire qui se réunissent pour parler plein de choses, mais aussi pour faire du jeu de société, pour jouer toute la nuit, pour faire de la musique, pour faire du dessin, pour écrire des textes, pour faire plein de choses. Pour rencontrer des auteurs aussi. Des fois, on a eu des auteurs assez connus qui sont allés. Et il y aura un village du libre, comme il y a à chaque fois, sauf l'année dernière, puisque il n'y a pas eu d'événement. Et donc, on va faire du jeu de société pour découvrir les logiciels libres et l'intelligence artificielle.
Ah, on peut pas y échapper. Hein, même
on ne peut pas y échapper, mais on a fait un petit jeu assez amusant sous base de questions-réponses et chacun choisit la réponse. Et des fois, c'est drôle, des fois, c'est vrai. Des fois, ça peut être sexiste, manifestement. On a testé le jeu et suivant les réponses, ça peut être sexiste, malheureusement. Mais ça sera sous forme de jeu et c'est surtout pour aborder des sujets qui ne sont pas forcément connus par les participants et participantes du salon. Et pour répondre à leurs questions. Je crois qu'on aura aussi une petite conférence, mais je ne sais pas encore à quel horaire.
Et est-ce que je me trompe si je dis que cet événement est un de tes chouchous?
Ouais, c'est possible que j'aime bien me costumer pour y aller en plus, donc c'est l'occasion de faire la fête.
Alors je crois, moi j'y suis pas encore allé, mais j'ai très envie d'y aller quand je pourrais. À chaque fois, ça tombe sur des périodes qui me... Bref, qu'importe. Mais je crois que c'est un événement qui est super pour y aller en famille.
C'est génial. En fait, pour information, c'est toujours le premier week-end du mois de juin. Donc souvent il fait beau et il y a vraiment plein d'animations et c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants, il y a pas beaucoup d'enfants mais quand même pas mal qui tournent et qui ont pas l'air de s'ennuyer, donc je pense qu'effectivement on peut y aller en famille, faut attendre que l'enfant sache lire quoi.
Donc je répète, du 6 au 8 juin à la salle Schurcher. Donc ça c'est vraiment pour voilà toutes ces de beaucoup beaux événements. Alors il y en a plein qu'on n'a pas cités qui sont peut-être de dimension plus locale, mais en fait on pourrait passer toute l'émission à citer le nombre d'événements. Et alors il y a un événement qui habituellement a lieu en juin, qui est un très bel événement libriste également, qui est le passage en scène, qui a habituellement lieu à Choisy-le-Roi. Et bah, on tenait à dire, peut-être à partager un mot de soutien aux organisateurs et aux organisatrices de cet événement, parce que, alors déjà il a été annulé cette année, visiblement c'est pour les années à venir également, suite à des problèmes de harcèlement sur lesquels ils ont effectivement communiquer. Donc voilà, bah, écoutez, tout notre soutien. Je ne sais pas si vous aviez envie de partager un mot.
Moi, je suis un peu triste parce que c'était un événement qui avait lieu juste avant l'été sur Paris. Donc entre cet événement-là et Open Source Summit, ça nous faisait deux événements en milieu d'année. Et puis c'était l'occasion de parler de logiciels libres dans une médiathèque. Donc bah, je suis un peu triste que ça n'ait pas lieu, mais je comprends totalement la réaction des organisateurs. Donc voilà, on leur envoie des poutous.
Oui, bah, rappeler que tout ça repose sur des forces bénévoles et voilà, il y a à la fois un épuisement et puis sur la durée une plus grande sensibilité aussi. Enfin, je ne connais pas du tout les détails du truc, mais effectivement, il faut aussi rappeler que tout ça tient grâce à des engagements bénévoles et qu'il faut vraiment être comment on dit, quelle expression, faut vraiment tenir ça en compte, bienveillant. Oui, je crois que la bienveillance vis-à-vis des bénévoles est très importante là-dessus. Et puis alors je vais jouer mon parigo, mais effectivement là, on peut se poser la question des événements à Paris quand on voit ce que font Lyon et Toulouse. Alors il y a Open Source Summit, on a lancé en décembre avec Parinux, on a lancé un événement à la Cité des Sciences, mais effectivement la question d'un événement d'événements à Paris se posent, parce qu'il y a quand même du monde et il faudra qu'on se retrousse les manches là-dessus.
Ouais, j'allais dire un peu la même chose que Vincent, c'est passage en scène, c'est à Choisy-le-Roi, donc un endroit super facile d'accès pour les franciliens, juste à côté de la gare de... C'est le RERD, voilà, on va dire. Et exactement, il y a une conférence, c'est du boulot à organiser, c'est pas mal de pression, c'est vraiment du gros boulot. Et là, il y a un épuisement de l'équipe apparemment, plus des guerres fratricides, enfin je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément passionnant de creuser. Enfin, hein, il y a eu beaucoup de bisbilles. Il y a eu des hauts et des bas, et malgré ça, l'événement continuait avec le courage des organisateurs à assurer le suivi. Et puis là, donc j'espère que déjà qu'ils pourront reprendre un peu des forces, et puis bon, parce que si PSES pourrait reprendre, ça serait l'idéal, mais ça a pas l'air, ils ont pas l'air optimistes au vu de leur communiqué de cette année, quoi. Voilà,
non, c'est sûr, mais en tout cas oui, on leur souhaite leur meilleur, de prendre soin d'eux et d'elles. Je pense que c'est le plus important, comme PSITS, ça reste porté par les humains. Oui, Bouki.
Après, je vais troller, hein, il suffit de commencer à organiser les rencontres mondiales du logiciel libre, mais les faire sur Paris, quoi, c'est tout. Bon, d'accord.
Attends, nous sommes pas le 1er avril, parce que je te signale. C'était dans les annonces. Les annonces du 1er avril, et je crois que ça va vraiment déçu beaucoup de monde que ce soit le 1er avril.
Je vous propose de passer à notre sujet suivant. Alors, il n'y a pas de vassalité heureuse, disait Emmanuel Macron c'était l'appel d'Emmanuel Macron à recouvrer sa souveraineté technologique. Alors, c'était le titre que j'ai un peu bricolé, pardon, de ZDNet, pardon, publié le 6 mai dernier. Et parmi les propos relayés, donc je cite, il n'y a pas de vassalité heureuse, a rappelé le chef de l'État, il peut avoir un côté agréable à ne pas faire d'investissement qui suppose de redevenir indépendant, mais à la fin, on finit toujours par le payer. Note, petite parenthèse, c'est dommage que le président actuel n'écoute pas ses propos. Nous ne pouvons pas dépendre de quelques entreprises américaines pour avoir un véritable cloud, parce qu'il en va aussi de l'intérêt général. Sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Et une actu qui évoque un autre article de ZDNet toujours, qui lui date du 30 avril, la dépendance de l'Europe au cloud américain lui coûte cher. Et qui parle d'un chiffre parlant, le SIGREF estime à 264 milliards d'euros les achats annuels de services cloud des Européens auprès des fournisseurs US, dont environ 66 milliards en France. Alors SIGREF, c'est un consortium de grandes entreprises, voilà, pour avoir aussi cet aspect. Alors qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand vous entendez Emmanuel Macron dire qu'il n'y a pas d'assaité heureuse et qu'effectivement il ne faut pas dépendre, c'est un problème qu'on dépende de grandes entreprises américaines pour avoir un véritable cloud et que c'est une question d'intérêt général. Qu'est-ce que ça vous
J'ai un peu pouffé quand j'ai lu que Emmanuel Macron dit qu'on n'avait pas de véritable cloud européen, parce qu'en fait, effectivement, les clouds états-uniens sont mis en avant, ils ont la force marketing, la puissance, etc. Et le politique parle beaucoup d'eux, peut-être même trop d'eux, en oubliant, enfin, ça masque en fait l'existence d'alternatives européennes, en fait. Alors libre ou pas, il y a pas que du libre, il y a aussi des initiatives privées, mais on a quand même des gros hébergeurs en France, un certain nombre, on a de l'activité. Alors Il est d'usage en France d'avoir des complexes d'infériorité. Oui, c'est quand même pas au niveau des gros Américains. Eux, c'est vraiment les pros, etc. Mais en fait, ça, quand on veut, alors il faut parfois, ça demande des efforts d'adaptation éventuellement. La souveraineté, c'est jamais gratuit. Ça, c'est ce que je dis. C'est pas si on veut du facile. Effectivement, c'est plus facile d'aller au plus visible, au mieux marketé. Mais dans ce cas-là, faut pas pleurer quand on voit que les prix augmentent x3 du jour au lendemain, comme certains ont pu le faire et comme certains vont certainement continuer à le faire. Donc ça réclame des efforts, et je trouve quand même bien qu'il y ait une prise de conscience politique à ce niveau-là. Il y avait eu quelques années l'initiative de Bruno Le Maire qui initiait une sorte de blanchiment des clouds états-uniens en disant vous inquiétez pas, parce que évidemment les administrations et le CAC 40 avaient envie de pouvoir utiliser ça sans vergogne, tout en étant protégé juridiquement.
Une sorte de système de certification qui
disait où ça passe. Oui, il y avait des sortes d'installations sur des réseaux, dans des data centers français, un peu mieux maîtrisés vis-à-vis des écoutes, des services secrets américains, etc. Mais c'était quand même de la technologie états-unienne de base. Donc ça couvrait un petit peu juridiquement les sociétés qui s'en servaient, mais c'était loin d'être idéal. Donc en fait, il faudrait vraiment alors c'est pas juste un problème français, il faudrait qu'on ne pense pas forcément que franco-français et qu'on essaie de monter des choses européennes. On essaie
c'est
de
le
faire.
C'est le propos d'Emmanuel Macron.
Là, il n'y a rien à dire. Je pense que on peut le critiquer pour beaucoup de choses, mais faut reconnaître qu'au niveau européen, il a au moins en parole, il a une vraie vision et une tentative de. Oui, en parole, on va dire ça comme ça.
C'est un début. Hein.
Sur l'actualité en question, c'était orienté sur la science européenne et notamment récupérer, séduire les chercheurs américains.
Le fameux slogan "Choose Europe for Science".
Exactement. L'idée, c'était de récupérer les talents de recherche américains qui ont été virés comme des malpropres du jour au lendemain par Trump. Alors effectivement, je sais que ça marche pas trop mal. Enfin, en volume, j'en ai aucune idée, mais j'ai eu des retours plus ou moins improbables de centres de recherche français qui m'ont dit qu'ils avaient vu effectivement débarquer des chercheurs américains qui s'installaient en France. Parce que là aussi, on a un sentiment d'infériorité en disant la recherche en France, c'est mal payé, il y a pas beaucoup de moyens. Mais on a quand même réussi à attirer des Américains, des chercheurs états-uniens qui sont prêts à venir pour continuer leurs activités de recherche, parce que c'est plus possible là-bas.
Donc il y avait de l'argent pour recruter des
scientifiques. Il y a quand même de l'argent apparemment, voilà.
Et on a récupéré des chercheurs français qui étaient partis aux États-Unis et qui du coup reviennent en France.
Oh ben, en informatique, la souveraineté technologique, ça s'appelle le logiciel libre, mais bon.
Je pourrais difficilement mieux le dire. Et c'est le point. Après, on peut refaire c'est un point important. C'est là, on parlait, alors, les chiffres et que ça a mis en avant. C'est le cloud. C'est tout le monde confondu, et notamment l'utilisation qu'en font les entités privées. Alors, on peut que les pousser, effectivement, à utiliser du logiciel libre pour leur propre souveraineté, leur propre maîtrise. Là, ça va leur relever justement de leur choix souverain. Est-ce qu'ils vont ou pas utiliser le logiciel libre? Par contre, et il y a tout l'enjeu aussi, c'est quelle informatique et quel cloud ils veulent utiliser, ces services cloud, utilisent les pouvoirs publics, parce que là effectivement on a un enjeu politique comme de dimension supérieure, puisqu'ils sont détenteurs d'une mission de service public, et donc la question est, donc selon nous, on l'a souvent répété, on ne peut pas avoir de souveraineté réelle sans logiciel libre. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une priorité au logiciel libre par les acteurs publics. Et là, on voit tout l'intérêt, notamment via l'achat public, d'un soutien des pouvoirs publics vers les tissus économiques locaux, vers les entreprises françaises, européennes qui font du logiciel libre. Et il y en a quand même pas mal. C'est comme ça qu'on va consolider, en fait, sur le long terme, une informatique souveraine. Ça part de là et ça se fait au niveau européen. Après, la nationalité, c'est vrai que nous, tant que si c'est du logiciel libre, en fait, ça transforme de la question de nationalité, je pense, même s'il y a des enjeux parfois de loi extraterritoriale comme avec les États-Unis qui peuvent poser d'autres soucis, mais on voit bien l'enjeu. Et d'ailleurs, il y a une circulaire intéressante qui a été émise par Bercy, c'est Next qui le qui en parlait, une circulaire donc émise par Bercy et qui dit que les achats de services informatiques qui ne respectent pas les préconisations de la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, feront l'objet d'un refus en bonne et due forme de la part des agents de Bercy chargés du contrôle budgétaire et comptable, sauf en cas de dérogation. Alors ça c'est toujours un petit peu le petit trou, ouais, voilà. La petite, ce qu'on dit, loophole, voilà, pour...
Il va y avoir deux pistons pour contourner, oui.
Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il y a une direction la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, avait bien dit qu'il fallait éviter les services cloud européen. Bon, on espère que cette situation tendue...
États-Unis, tu veux dire.
États-Unis, ouais. Pardon, merci, ouais. Merci de me reprendre, voilà. Enfin, je sais pas, quel est votre regard, vous, sur ce levier de l'achat public, la nécessité aussi de soutenir...
Ben, je crois qu'en France, un problème souvent, c'est qu'on adore avoir des champions nationaux de très grosse taille, alors qu'on a quand même d'autres modèles économiques en Europe, notamment en Italie, avec beaucoup plus de petites PME et tout un écosystème beaucoup plus varié. Et je pense que c'est peut-être, on peut peut-être pas concurrencer les mastodontes des États-Unis, mais justement en développant un modèle différent, plus proche du modèle italien ou rénan, plus distribué, je pense c'est l'option, plutôt que de vouloir monter un champion national qui, ou même européen, qui n'arrivera pas à la cheville et qui sera toujours à la ramasse.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Et on voit beaucoup, pardon, Pierre, je te laisse réagir. Le problème aussi de comment fonctionne la commande publique aussi en France, c'est conçu d'une certaine manière. La procédure produit, en fait, le fait que c'est beaucoup plus simple pour des très gros de répondre à ces candidatures et ensuite d'aller chercher, de sous-traiter derrière. Mais on a un fonctionnement qui facilite les plus gros, et je pense qu'on aurait vraiment intérêt à réfléchir à comment consolider des tissus et de réfléchir en réseau d'entreprises plutôt que d'avoir effectivement ces mastodons. Mais il y a ce rêve d'avoir ces champions, je suis assez d'accord.
Alors je rebondis tout de suite, parce que pourquoi avoir des agents locaux? Enfin, c'est très bien d'avoir des entreprises françaises qui vont proposer du cloud, mais pourquoi pas la DINUM? La DINUM a largement les moyens de proposer du cloud qui serait utilisé par les services des autres ministères, les autres administrations. Pourquoi aller faire appel à d'autres gens alors qu'on pourrait avoir notre cloud, alors attention, je mets des guillemets, souverain, hébergé par les services de l'État?
Je sais pas si c'est vraiment dans les missions de la DINUM, parce que c'est quand même une grosse infra à déployer. Enfin, c'est pas une énorme infra, hein, c'est pas forcément des milliards, mais je suis pas sûr qu'ils soient vraiment outillés pour exploiter un système de ce style, quand même, qui nécessite quand même pas mal d'attention.
Dans ces cas-là, chaque ministère propose un cloud pour son institution et pour les gens qui dépendent de lui. Tu vois ce que je veux dire ? On peut très bien faire ça au niveau étatique pour suivant les besoins, sans pour autant passer par d'autres. Alors, j'ai rien contre les entreprises françaises qui font du cloud, hein. Surtout si c'est du libre, je vous aime, bisous. Mais voilà, quoi. Il y a un moment donné, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de faire les choses bien.
Alors, je sais qu'on a, eu une externalisation, une réduction des moyens techniques de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, enfin tous les TECOS, en fait. Il y a une réduction forte du nombre de TECOS, puisqu'on prenait plutôt des gens qui géraient des appels d'offres. Du coup, ça va mettre du temps si on veut inverser la barre, enfin inverser la tendance. Et la DINUM est déjà une brique, je pense, de ce que j'ai compris dans ce sens-là, d'avoir des gens qui sont techniquement compétents pour. Par contre, il faut avoir un levier au niveau moyen. Je pense qu'ils peuvent pas, ils ont pas des moyens infinis, donc ça va être compliqué. Sinon, sur ce que disait Étienne sur l'achat public, ouais, je pense qu'on peut s'inspirer des États-Unis là-dessus, parce que ils sont pas mauvais pour justement valoriser des petites boîtes ou des boîtes de taille intermédiaire plutôt que d'acheter à des gros. Nous, on a les marchés publics qui sont un système assez lourd, souvent, qui effectivement favorise. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas, pas envie ou pas les moyens d'y répondre, parce que c'est des délais de paiement très longs, c'est beaucoup d'énergie pour faire un dossier, c'est beaucoup de chances aussi de se faire éjecter. Donc, ça induit des coûts de fonctionnement qu'il faut amortir, en fait, sur une grosse offre. Donc pour une PME, c'est pas forcément facile.
Pas intéressant.
Et pareil pour toutes les normalisations type Secnum Cloud et compagnie, qui permettent de garantir un certain niveau de qualité, disons, donc des labels de qualité entre guillemets, mais qui sont assez coûteuses quand on n'a pas la masse critique pour pour passer l'audit en fait, parce qu'il faut payer des consultants.
Voilà, c'est une cloud, c'est pour certains usages et pour certaines missions de service public, on va dire. Bref, ce label est impératif. C'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui pose ce constat. Alors, peut-être que je mélange.
Ils définissent.
Ils définissent les critères.
Et je pense qu'ils doivent plus ou moins agréer des cabinets de consultants en mesure de vérifier la conformité au label. Je crois pas que l'ANSSI fasse l'agence de sécurité fasse elle-même la prestation.
Non, elle développe les critères, me semble-t-il.
Oui, c'est plutôt ça. En collaboration, en coopération avec l'industrie, je suppose. Donc voilà. Mais effectivement, il y a un rôle important à jouer pour l'achat public. J'ai vu que récemment, j'ai vu récemment une administration qui se faisait critiquer pour avoir choisi une petite entreprise plutôt qu'une grosse pour une prestation informatique. Mais je trouve ça plutôt bien, en fait, qu'il y a une ouverture vers un peu plus de diversité, en fait, littéralement. C'est une question de diversité, là aussi. Et ça va plutôt dans le bon sens, à mon avis.
D'accord, j'avais pas vu passer, mais c'est vrai que c'est tellement ancré dans la mentalité.
C'était peut-être autour de la DINUM, hein. Alors c'est peut-être une initiative de la DINUM. Donc il y a pas mal de, justement, la DINUM, c'était très l'esprit libriste par certains côtés, un peu start-up, petite boîte de l'autre, pour essayer d'être agile par rapport à tout un tas de rigidités ici et là, dans le public et dans le privé.
Pour juste rebondir peut-être par rapport à ce que j'étais booké, c'est vrai que c'est des questions, je pense, qui sont assez complexes, de savoir où est-ce qu'il faut internaliser au sein des structures des administrations les compétences, est-ce qu'il y a un sens à externaliser aussi, parce que ça fait vivre des communautés, puisque on sait que le logiciel libre fonctionne aussi par communauté, il peut y avoir... ce que tu vois, il y a eu la suite numérique, qui est une suite d'offres bureautiques, on va dire, peut-être pas spécifiquement bureautiques, mais essentiellement, me semble-t-il, qui a été proposée par la DINUM, et on sait que ça a créé des tensions aussi avec l'écosystème des entreprises du libre. Ils disent, bah, nous, on a déjà ces compétences-là. Donc je pense que voilà, le curseur n'est pas forcément si simple à poser, même si je te rejoins dans le fait de penser que c'est important qu'il y ait un minimum de compétences et de capacités au sein des administrations pour ne serait-ce que d'avoir les personnes qui sont en mesure d'échanger avec les communautés et à contribuer aux communautés et aux projets libres, quoi, qu'elles soient pas juste des consommatrices passives, mais il y a tout un sens à ce que les administrations soient actives au sein des communautés du logiciel libre.
Ah, une dernière chose sur cet article, parce que j'ai eu des mots qui m'ont procuré une certaine jouissance. Désolée pour le mot, mais effectivement, quand j'entends nous avons commis une erreur, nous avons eu tort, bah ça me fait plaisir qu'ils le reconnaissent comme ça. Alors pas à voix haute puisque c'est plutôt à l'écrit, mais oui, ils ont fait de la merde et je suis contente qu'ils s'en rendent compte enfin.
Bah, d'ailleurs, ce qui me fait penser, alors voilà, on parle, il faut investir, c'est une question d'intérêt général, on peut pas dépendre des entreprises américaines. Moi, j'ai forcément pensé au Health Data Hub, qui était ce grand projet de grande plateforme qui regroupe toutes les données de santé pour permettre de la recherche hébergée chez Azure de Microsoft. Très récemment, on a l'éducation nationale qui a re-signé pour 4 ans un accord open bar avec Microsoft sur un montant, alors je parle de mémoire, de plus de 150 millions d'euros maximum. Voilà, donc quand même des gros budgets, et en plus qui concerne un périmètre un peu sensible, puisque ça parle de l'informatique qu'utilisent les enfants. Voilà, donc bon. Écoutez, si ça permet d'initier, si cette situation compliquée et tendue avec les États-Unis permet d'initier certaines remises en cause et réflexions de fond sur comment on se procure de l'informatique, je suis pour. On avance ou vous aviez encore un mot à dire sur... Alors, avançons. Alors, si vous suivez nos actions, vous savez que nous sommes mobilisés sur le dossier des logiciels de caisse. On l'avait d'ailleurs évoqué lors du dernier au Café Libre sans avoir le temps d'en discuter. Donc là, on va pouvoir prendre un peu de ce temps-là. Donc, pour rappel, la loi de finances pour 2025, donc il y a une loi de finances tous les ans en fin d'année, a créé une obligation de certification des logiciels de caisse. Un coup dur en particulier pour les logiciels libres de caisse pour qui la certification très lourde et particulièrement mal adaptée. L'administration fiscale chargée de la mise en œuvre de cette réforme, avec qui l'April a eu l'occasion d'échanger, a publié la mise à jour de son bulletin officiel des impôts, sa doctrine fiscale, où elle précise comment elle va mettre en œuvre justement cette réforme. Alors deux choses importantes à noter, déjà il y a un délai d'application, donc à partir du 1er septembre, les entreprises vont devoir montrer qu'elles ont engagé les démarches de certification, et à partir du 1er mars 2026, il faudra être certifié. Alors ce qu'on avait compris, c'est que ce deuxième délai délais en fonction de ce qui est possible, parce qu'évidemment les certificateurs vont avoir beaucoup de boulot, ça pourrait être si nécessaire repoussé, mais en tout cas voilà, il faut avoir à partir du 1er septembre engagé les démarches, et il est clarifié qu'à partir d'un moment où une version du logiciel est certifiée, n'importe qui peut se prévaloir de ce certificat si il ou elle utilise la même version du logiciel, et c'est une précision importante pour les logiciels libres, parce que ça permet voilà ce qu'on peut appeler une sorte de certification au niveau de la communauté du logiciel libre, c'est pas chaque entreprise de son côté. Rappelons enfin que ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire. Nous agirons donc à nouveau à la prochaine loi de finances pour essayer de réinstaurer le modèle de l'attestation, beaucoup plus souple et adapté à la réalité du développement informatique. Et on a eu des échos favorables, on a eu des échanges avec des députés qu'on avait contactés et qui seraient a priori quand même partants pour et partantes pour porter de tels amendements. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette mise à jour ? Alors, on peut reparler du dossier de fond qui pose beaucoup de sujets, mais là, voilà, comment vous avez vu, vous, cette mise à jour du BOFIP et ses délais d'application, notamment ?
Alors, moi, je trouve ça effarant, les délais aussi courts. Quand on voit que la mise en place de la facturation électronique, on a dit, allez, vous allez 2-3 ans pour le faire, mais là, vous avez 6 mois, point. Et je trouve ces délais totalement débiles parce que ça correspond pas à la réalité. Puis surtout, ça va obliger des entreprises ou des associations à payer une certification qui, d'après ce que j'ai lu, coûte énormément d'argent. Donc ça risque de les mettre en danger. Alors que d'habitude, les délais sont beaucoup plus longs, quoi.
Alors je dirais peut-être, en t'entendant, j'en voyais peut-être une différence par rapport à le truc de la facturation. Effectivement, il y a une réforme qui concerne aussi la facturation. Donc les entreprises qui proposent ce genre de logiciel doivent gérer plein de réformes en même temps. Donc ça fait partie des critiques. La différence, peut-être, c'est que sur la facturation, ça imposait aussi une refonte technique. Il y avait une obligation technique de mise en place d'une certaine plateforme. Là, la certification, c'est juste faire reconnaître les procédures. Alors, c'est pas juste, hein, c'est un gros boulot, mais il n'y a pas forcément le même impact. Je pense que c'est la justification. C'est pour ça qu'il faut un délai plus long, c'est que ça a des impacts sur la manière de faire. Ça a des impacts techniques. Là où la procédure, c'est plus voilà un dossier à monter, etc. C'est beaucoup de boulot, hein. C'est très cher. Mais je pense que j'imagine que c'est le rationnel, la réflexion de l'administration sur la différence de délai. Mais c'est vrai que ça reste des délais très courts. Tout à fait.
Ouais. Tu connais d'autres lois avec des délais aussi courts ?
Je sais pas toutes les mortelles, mais il y a des délais courts, ça.
Non mais.
Il n'y avait pas de délai dans la loi, mais de toute façon, ça c'est un amendement, il est arrivé, on ne sait pas trop. Ce que l'administration nous avait dit quand on l'a rencontré, puis on a une autre écho qui nous le confirme, que l'administration, la situation d'avant lui allait très bien. Donc on ne sait pas d'où est tombé cet amendement, qui a commandé ça, c'est toujours aussi la question de la plume.
Des entreprises de certification qui vont s'en mettre plein les thunes une année, puis qui après retourneront dans la normalité.
C'est une hypothèse, c'est vrai que moi je n'ai pas appris, on n'a pas...
Donc, Pierre, moi, je fais confiance à vos analyses là-dessus parce que je connais assez mal le sujet.
C'est vrai qu'il est complexe.
Ouais. Mais est-ce qu'on peut résumer ça par ça avance quand même dans le bon sens, mais pas suffisamment.
Alors, je vais prendre le terme anglais qui est damage control. Hein, voilà.
Ok.
La situation c'est mauvais ce qui s'est passé des points de vue du logiciel libre. Je pense que voilà, surtout sur la confirmation, c'était une lecture possible du fait que effectivement, à partir du moment où le logiciel est certifié, la certification vaut pour tout le monde.
Ça paraît pas mal, ça, oui.
Le fait que ce soit clarifié un peu,
effectivement, voilà. Qui était quand même
le fait que ce soit clarifié quand même rassurant. Et
En gros, c'est deux pas en arrière et un demi pas en avant.
On pourrait peut-être voir ça comme ça, effectivement. Non, ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, il y a des députés qui se sont montrés sensibles. A priori, le gouvernement, il serait pas non plus insensible à la question parce que ça rajoute quand même beaucoup de lourdeur ils aiment bien, puisqu'il y a d'ailleurs un projet de loi qui est en cours sur la simplification. D'ailleurs, des amendements dans ce projet de loi de simplification de la vie économique qui proposaient de réintroduire l'attestation, mais ça a été déclaré irrecevable parce que c'était trop éloigné du cœur du texte, qui est plutôt entendable, semble-t-il, même si on a regretté qu'il soit pas débattu, effectivement. Ouais.
Et pourtant, qu'est-ce que ça simplifierait la donne si l'attestation revenait, quoi. Donc,
Oui, c'est par rapport au titre, mais à part, il y a le contenu, c'est plus comme ça qu'on étudie. Mais oui, après, mais je pense qu'il y avait tellement de ces projets de loi, c'est des lois, il y a tellement d'amendements qui sont obligés un peu de
couper. C'est très difficile à suivre, hein. Oui, c'est clair.
Mais oui, non, c'est vrai que ça aurait été intéressant que ça puisse passer là-dedans, mais bon, voilà, on va suivre, on va continuer à proposer
et on les embêtera pour le projet de loi finance 2026.
Voilà, exactement.
Exactement, ce n'est qu'un au revoir.
Alors, moi, je voulais aussi réévoquer ce sujet parce qu'il me semble traduire une tendance, et ça, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je pense qu'on voit plus en plus souvent cette idée qu'il faudrait de certifier des logiciels. Un exemple récent, un autre exemple récent date, c'était le Cyber Resilience Act, donc là au niveau européen, qui impose la certification du point de vue plus de la sécurité informatique. Alors là aussi, ça avait été, on s'en est bien sorti par rapport à ce qui était initialement le texte, qui était une grosse menace pour la liberté, pour le logiciel libre. Le résultat final est beaucoup plus acceptable. Hein. D'ailleurs, je partagerai les références. L'April avait suivi de près ce dossier. Est-ce que c'est une tendance que vous percevez et comment vous percevez cette idée de certification des logiciels? Moi, j'ai l'impression intuitivement que c'est presque incompatible avec comment on produit intelligemment du logiciel.
Alors, pas forcément. Par contre, effectivement, c'est une poussée pour mettre de la procédure partout, une poussée qui est pas nouvelle dans notre monde, qui est pas mal poussée par les institutions, le politique souvent, parce qu'il y a des structurations, il y a des normes qualité dans tous les sens maintenant, et donc ça nous pend au nez. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Ça peut donner un résultat peut-être plus maîtrisable, mais à quel coût? Et en matière de logiciel, justement, puisque le logiciel a la caractéristique relativement unique, enfin comme les données numériques en fait, de pouvoir être répliquées à coût quasi nul, c'est quand même une exception dans la vie économique. Et donc ça veut dire qu'on peut faire facilement du logiciel bénévole distribué en masse avec des moyens très faibles, et une certification par contre, enfin n'importe quel type de certification de logiciel, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps. Donc il faudrait essayer d'organiser ça pour que... Alors du coup, ça arrange évidemment les sociétés qui ont une activité commerciale là-dessus, puisqu'ils ont du revenu qui leur permet de financer ça, et ça leur permet aussi de mettre une barrière à la concurrence. Enfin, souvent la réglementation est accueillie avec des applaudissements des grosses boîtes, parce que une fois qu'elles ont les moyens de répondre aux demandes du législateur, de la réglementation, et elles peuvent ainsi avoir une barrière à l'entrée pour des futurs concurrents. Et en particulier en termes de logiciel, on a le cas du logiciel libre contributif, et éventuellement aussi de bénévoles, mais aussi éventuellement d'indépendants de PME qui n'ont pas des moyens, qui n'ont pas de revenus commercial liés à cette activité. Que ça peut vraiment coincer et éjecter du marché. Donc c'est peut-être même, il est même pas exclu que ça, qu'il n'y ait pas derrière des groupes d'intérêt liés aux éditeurs de logiciels qui poussent ça tout à fait sciemment. Hein. Enfin, c'est même probablement certain. Donc voilà, on est dans une société où il y a une forte demande de garantie dans tous les sens, de sécurité, d'assurance, de juridique, etc. Mais il faut être prudent dans ce qu'on en attend et dans ce qu'on en espère, parce que il y a aussi tu parlais du Cyber Resilience Act, il y a aussi la NIS 2. Qui est sur l'exploitation c'est plus l'exploitation d'infrastructures que le développement logiciel, mais là aussi il y a eu sur notamment les serveurs DNS, donc les serveurs de nom de domaine qui gèrent qui permettent de répondre aux adresses qu'on met dans notre navigateur web ou dans notre courrier électronique. Il y en a un certain nombre qui sont opérés par des entités universitaires de manière bénévole ou pour à coût moindre et qui risquaient de se retrouver avec des obligations il y en a qui sont réellement apparus d'ailleurs hein, sur l'exploitation de ces serveurs-là, parce qu'ils ont une importance. Quand ils tombent en panne, on peut plus accéder au site. Donc évidemment, si un domaine national tombe en panne, on a un déni de service sur l'infrastructure nationale en la matière. Donc il faut avoir des garanties de résilience, mais ça implique également des coûts pour répondre à la réglementation, sachant que si c'est fait hors réglementation, ça va être moins lissé au niveau garantie de service, mais ça pas forcément de moins bonne qualité. C'est tout, effectivement, c'est un sujet moderne de nos sociétés qui se complexifie de jour en jour.
Et voilà, avec les impacts. Ok, oui.
Alors moi, je suis totalement d'accord avec ta première partie. Et puis en plus, je pense qu'il y a une perte de compétences qui fait qu'il y a une perte de contrôle. Ils ne sont plus compétents à surveiller, donc ils se disent « Ah bah si on fait des certifications, ça va être des gens qu'on connaît, hein, les entreprises de certification, ils les connaissent depuis longtemps, qui vont pouvoir vérifier les logiciels et donc on est sûr qu'il y aura pas de fraude parce que eux ils sont incapables de le faire. Ce qui est d'autant plus débile, c'est que avec le logiciel libre, s'ils avaient ne serait-ce que quelques compétences en informatique, ils pourraient vérifier les logiciels qui sont utilisés et il y aurait pas ce doute, ce risque de fraude, puisque le logiciel est vérifiable, on peut voir le code et ainsi de suite. Donc imposer une certification en plus au logiciel libre, je trouve que c'est totalement à côté de la plaque et ça montre à quel point ils sont plus en état de vérifier ce qui va ou ce qui va pas dans les logiciels utilisés. Et donc quand c'est libre, ils pourraient, mais ont pas les compétences. Et puis quand c'est propriétaire privateur, ils peuvent pas puisque le code est fermé.
Puis comme on disait, nous, c'est les arguments qu'on avait sur la certification logicielle de CAS. En fait, toutes les entreprises qui participent autour d'un projet libre, elles ont un intérêt collectif à prendre soin de ce commun informationnel, et en prendre soin, c'est aussi d'éviter que des gens viennent saccager ou faire n'importe quoi avec, donc un code transparent et respectueux aussi des réglementations. Oui.
Moi, ça m'a deux choses. L'idée de certifier une version stable me paraît bizarre, parce qu'un code, ça bouge en permanence, donc c'est quelque chose de vivant. Et parce que ce qui me fait penser à un sujet que j'ai abordé il y a très longtemps dans les chroniques sur la question des semences, où on est un peu sur la même chose. Il y a eu tout un mécanisme avec le catalogue des semences de certification, qui a été une manière de réduire normalement la possibilité de nouveaux entrants. Et ça, on parlait des gros tout à l'heure, mais c'est la certification, c'est un énorme moyen de réduire le marché, de la réduire à des gros qui ont les moyens et qui empêchent après par la certification sous prétexte de protéger les consommateurs, c'était le cas aussi des semences, on enlève beaucoup de liberté après à tout et au développement et en plus c'est vraiment opposé au fonctionnement d'un code source de vouloir le certifier.
Oui, ça fiche dans le temps quelque chose qui, comme tu dis, est à vocation plutôt à être vivant.
Qui est vivant comme l'espace l'était, on ne peut pas assurer, un logiciel bouge tout le temps.
Très bien. Je vous propose de faire une pause musicale. Nous allons donc écouter Les Bretons de l'Est par Les Bretons de l'Est et on se retrouve juste après pour continuer notre conversation sur la radio Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
venons d'écouter Les Bretons de l'Est, disponible sous licence libre, art libre.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous sommes de retour au Café Libre avec Vincent, Pierre et Bouquinette pour discuter les actualités autour du logiciel libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors pour notre sujet suivant, un hackathon dédié aux outils collaboratifs open source pour l'État. Alors open source, je cite le titre de l'article, une information relayée par Le Monde Informatique le 30 avril. Et je cite donc avec la DGNUM et la DINUM, donc la Direction Générale au Numérique et la Direction Interministérielle du Numérique, La DGNUM organisent les Hack Days, un hackathon IA et Digital Workspace. Une compétition qui a pour but de renforcer les applications bureautiques open source utilisées par les agents de l'État au niveau européen. Dans ce but, 300 développeurs, designers ou profils en IA et data sont attendus du 2 au 4 juin à l'ENS à Paris. Alors avant qu'on discute, est-ce que l'un ou l'une de vous se sent d'expliquer en peu de mots qu'est-ce qu'un hackathon? Alors je vous ai pas demandé de le préparer.
Je veux bien tenter. Tu me diras si un hackathon, c'est un endroit où on invite des équipes de développeurs. Alors ça peut être à distance d'ailleurs, mais en général c'est quand même sur place, en leur donnant c'est une sorte de concours en fait, on leur donne des missions à accomplir et ils ont un certain temps relativement réduit ça peut être un week-end, une journée, une soirée pour faire le mieux possible par rapport à la demande. Et puis après c'est jugé par les organisateurs en fait. Alors ça peut être soit la même, plusieurs équipes sur la même tâche, soit des équipes sur des tâches différentes, et puis avec une évaluation ensuite, dans le but d'avoir des avancées ponctuelles sur des sujets particuliers qui sont chers au cœur de l'organisateur, des organisateurs. Alors l'ENS de Paris, c'est il faut citer que c'est sur le campus du Jourdan, qui est à deux pas du parc Montsouris et de l'Institut Montsouris.
D'accord.
Donc c'est Paris 14e, c'est très facile d'accès en RERB.
D'accord. Et la participation est gratuite. Voilà, le lien est sur le. Alors c'est du. On en reparlera après. Qu'est-ce que vous en pensez, Bouki? Tu voulais réagir, pardon.
Ouais, pour moi les hackathons c'était du marathon où il fallait pisser 42 km de code, mais bon c'était une blague.
D'accord. Très bien. Alors qu'est-ce que vous pensez vous que les pouvoirs publics, des administrations comme la DGNUM et la DINUM organisent ce genre d'événements?
Bah moi ça me semble très bien. D'accord. Surtout que là c'est sur des sujets qui sont bien choisis, c'est-à-dire c'est des choses tout à fait gérables, c'est-à-dire trouver des points particuliers à améliorer dans les applications bureautiques libres. Ou parce qu'on a tous pesté contre tel ou tel outil parce qu'il y avait une petite fonction à laquelle il manquait un truc dans un coin ou qui était pas forcément très ergonomique, donc je pense pas mal. J'ai l'impression, alors tu me diras si je me trompe, il m'a semblé à la lecture du communiqué que des contributeurs, enfin des propositions externes étaient éventuellement acceptées.
Oui.
C'est ce qui m'a semblé
ça
lire.
Peut être pas mal aussi. Si vous avez des idées de choses qui vous gratouillent dans les projets concernés. Donc ça va être, j'imagine que c'est les LibreOffice, les choses comme ça, OnlyOffice et compagnie. Donc si vous avez des choses qui vous gratouillent absolument, vous pouvez toujours proposer des évolutions.
D'autres réflexions? Alors moi j'avais sur les hackathons, une réflexion que j'avais déjà vu passer, c'est est-ce qu'il y a pas une critique, enfin j'ai entendu une critique formée que c'est un peu du travail gratuit, c'est-à-dire que des gens viennent bosser et sans, ils produisent des choses qui vont être utiles. Bon là ils produisent des choses qui sont utiles à l'intérêt général puisque bon c'est pour du logiciel libre, donc ça bénéficie à tout le monde et en plus c'est pour les administrations, mais voilà, c'est une critique régulière que j'ai pu entendre. Je sais pas quel regard
le logiciel libre, c'est pas mal de travail gratuit quand même.
Et alors, c'est vrai aussi.
Ouais. Donc effectivement, après il y a effectivement l'argument classique qui fait pester les graphistes, c'est tu vas me faire un dessin gratuit pour mon site et puis tu seras rémunéré en rien du tout, juste en audience, parce que mon site il est super visible, il a 2000 visiteurs par semaine. Effectivement, on peut aussi entendre cet argument.
Après, ça peut être la classe de pouvoir mettre sur son CV que un des projets auxquels on a participé est utilisé par l'administration française aussi. Tu vois, c'est vrai que dans le logiciel libre, on n'a pas cette vision-là de c'est du travail gratuit. C'est nous, on est là pour faire des choses qu'on a envie de faire, les partager. Enfin, je dis nous, mais moi, je suis pas du tout codeuse, mais les partager avec des gens qui vont les utiliser, faire des remontées, améliorer, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que le mot travail gratuit, ça correspond pas forcément à notre vision des choses.
Très bien. D'autres réactions? Moi, ça m'évoque juste, enfin, on en a parlé au dernier Café Libre, mais si vous voulez en dire un mot, vous pouvez bien sûr. Je ne peux pas ne pas évoquer notre volonté actuelle, ce qu'on porte actuellement comme proposition, c'est-à-dire l'idée que les pouvoirs publics doivent maintenir des forges logicielles pour les logiciels libres développés par les administrations, parce que là, va être produit du logiciel libre, où est-ce qu'il va être hébergé ce logiciel libre? Voilà. Donc là, l'April porte cette proposition de forges logicielles maintenues par les administrations.
C'est vrai? Où est-ce qu'ils vont héberger des projets dont
ils sont sans doute déjà existants et déjà hébergés quelque part, ces projets, mais ils pourraient exister, effectivement. Mais bon, si c'est chez GitHub de Microsoft, par exemple, ce serait dommage.
En fait, moi, je trouve ça sous très bien, parce que c'est plus que de l'hébergement dans ces choses-là, ça te permet d'avoir un petit noyau de communauté, faire monter un peu la mayonnaise autour d'une communauté, donc c'est toujours intéressant d'avoir, et ça demande pas forcément des moyens et des ressources colossaux, et ça peut être la petite graine qui permet d'avoir une communauté qui décolle. Et effectivement, les administrations certaines entreprises spécialisées sur tel ou tel sujet sont bien placées pour ça.
Ça me semble un bon résumé.
Oui, juste
Vincent, vas-y.
Je vois dans le texte, ils disent que c'est organisé par Adimune, mais aussi une association informatique domiciliée à l'UNES Paris, la Délégation Générale Numérique. Alors je la connais pas, je sais pas si vous la connaissez, mais en soi qu'une association étudiante participe à cet événement en faisant la promotion du logiciel libre est une très bonne chose, en termes de vivier pour le futur. Alors voilà, je sais pas si on a des comptes, si des gens ont des contacts avec eux, ça pourrait être intéressant pour plus tard.
À noter, effectivement. Bien vu.
Oui, parce que, pardon. Les JDLL sont accueillis à l'ENS Lyon, donc on pourrait dire à l'ENS Paris qui pourrait aussi accueillir
un futur événement en 3 juin. Ouais. Ah, je te vois venir. Ok, on en parle après l'émission.
Il faut faire jouir les concurrences saines qui peuvent exister entre. Bien, avançons. Le Conseil constitutionnel censure la vidéosurveillance algorithmique dans les transports. C'est les titres qui font plaisir à lire. Donc une décision du 24 avril, relayée notamment par le site villerailtransport.com. Alors pour celles et ceux qui connaissent nos invités, je vous laisse deviner lequel des trois a proposé cet article. Je taquine Pierre, parce qu'on sait que voilà, pour les personnes qui connaissent Pierre, il est effectivement Ferrivopat, je sais plus qui il est, enfin je crois que tu
Ferrivopat, oui.
Voilà. J'aime beaucoup, voilà, que tu donc en somme, une loi étendait jusqu'en 2027 l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique dans les transports qui avait été autorisée jusqu'en mars 2025 pour les JO. Enfin oui, bien sûr, les JO sont effectivement terminé en août 2024, mais l'expérimentation, voilà. Bon,
c'était parce qu'il y a des gens qui étaient un peu en retard pour rentrer chez eux.
Tout à fait, quand c'est dans les transports, sans doute. Donc, en tout cas, ça prévoyait de prolonger de 2 ans supplémentaires l'expérimentation, et donc cette décision a été censurée, parce que ça a été considéré comme un cavalier législatif, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale. Donc, effectivement, une bonne nouvelle qui nous vient du Conseil constitutionnel, mais on voit quand même, ça traduit quand même une volonté, alors ancienne, hein, les bonnes nouvelles, cette volonté de surveillance et d'utiliser ces outils. De vidéo, ça va avoir Pierre, puisque c'est toi après tout qui nous a parti cet article. Oui.
J'avais vu passer l'actu par les canaux tech plus habituels. Mais là, ce qui m'a interpellé, c'est de l'avoir repassé par la Vie du Rail. Hein, donc c'est le journal des Ferrovipat, qui forcément vu le sujet est sensibilisé à la question. Mais c'est quand même rare de voir des sujets de liberté fondamentale qui passent.
Oui, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi.
Voilà.
Oui.
Donc c'est le croisement interdisciplinaire. J'ai trouvé ça intéressant. C'est aussi également rare que, parce que les prolongations, les machins, les expérimentations qui sont prolongées d'année en année pendant 30 ans, on connaît, hein, à commencer par Vigipirate. Donc là, effectivement, il y a ça pour la vidéosurveillance algorithmique. Et là, surprise, le Conseil d'État décide de retoquer. Décide de retoquer ça. Parce qu'il faut savoir, bah, évidemment, toutes les gares sont équipées de caméras, ne serait-ce que pour les conducteurs pour vérifier que les personne n'est coincé dans les portes avant le départ. Donc il y a de la vidéo partout dans les gares, notamment en région Île-de-France. Donc évidemment les transporteurs sont tentés d'utiliser ça et la police sont tentés d'utiliser ça pour faire de un cran au-dessus. Donc la vidéo surveillance algorithmique, c'est la surveillance comportementale, c'est-à-dire détecter tous des comportements qui sortent de l'ordinaire. Donc quelqu'un qui reste un peu trop dans un hall de gare, ou quelqu'un qui court alors que personne ne court à part lui, ou quelqu'un qui va moins vite que les autres, enfin tout un tas de machins qui sont des comportements pas forcément suspects, mais juste différents de ceux des autres. Donc c'est un peu flippant de se dire qu'on commence à essayer de détecter ça pour élever l'attention, enfin pour attirer l'attention des gens qui surveillent. Donc voilà, c'est plutôt bien que ça a été retoqué.
Voilà. Alors pas sur des bases, malheureusement, c'est pas sur des bases d'atteinte à la vie privée ou sur les fonds politiques de pourquoi ce serait contraire aux libertés fondamentales, parce que ça a été déclaré. En fait, ils ont même pas étudié la question parce qu'ils ont dit que ça n'avait pas lien.
C'était plus formel sur le.
Voilà. Oui. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle heureuse. Ouais. On voit souvent aussi, on imagine, il y a effectivement déjà des caméras, puis des gens qui ont, je vais vendre ma soupe de surveillance parce que je sais que ça, c'est vendeur.
Mais il y a une industrie qui est en train de se créer là-dessus. Oui, ça c'est une volonté quasi explicite politique. Ouais.
Hein, d'où la nécessité, voilà. De tuer aussi vite qu'on peut dans l'œuf ce genre de...
Et d'ailleurs, on peut aussi dire que Gérald Darmanin, récemment, dans une interview, a dit qu'il fallait qu'on s'oriente vers une société à la chinoise. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen, selon lui, de lutter contre les problèmes de sécurité.
Et s'il partait vivre en Chine, ce monsieur?
Il est mûr pour ça, oui.
Ah bah il est prêt, là.
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Chinois?
La vidéosurveillance? Oui.
Alors, difficile aussi de pas penser à la loi narcotrafic, hein, qui est un autre prétexte, donc une loi qui a été adoptée récemment et qui a également été prétexte alors pour lutter contre les narcotrafics, hein, le trafic de drogue, de nombreuses tentatives au sein de ce texte. Alors certaines aboutissent, d'autres non, de nouvelles mesures de surveillance. Alors une qui n'a pas abouti heureusement, mais qui a été très médiatisée, c'était sur l'atteinte au chiffrement. Heureusement, c'est pas resté dans le texte final, mais d'autres mesures, la CMP, c'est la commission mixte paritaire qui se met d'accord sur le texte final. Donc eux, ils ont élargi l'obligation de vérification d'identité des clients des opérateurs. Ça devait être que sur les offres payées, visiblement, ce sera pour tout le monde.
Pour les opérateurs d'internet fixe, les fournisseurs d'accès internet fixe. Normalement, c'était plutôt a priori quand tu prends un burner phone pour vendre de la drogue, tu vas pas prendre une box, quoi. Mais là, donc
il
y a peut-être des trafiquants un peu débiles, je sais pas.
Qui peut moins un peu le plus. Oui. Oui.
Moi, j'ai deux liaisons fibres. Je voulais pas le dire, mais voilà, j'en ai peut-être une pour vendre de la drogue, on sait pas. Mais voilà, il va y avoir une obligation effectivement de vérification d'identité sur les fournisseurs d'internet fixe qui est passé. Parce qu'en fait, on a un tel tsunami de mesures comme ça en permanence qu'il y a des choses qui passent sans que personne les ait vues avant. C'est ultra, enfin c'est même plus qu'un boulot à temps plein de suivre, ne serait-ce qu'à dans une des chambres, à l'Assemblée ou au Sénat, de suivre au jour le jour l'actu. Enfin,
ce projet de loi en particulier a été très dense, a été suivi par nos amis de la Quadrature du Net, effectivement, qui ont fait un gros boulot. Absolument. sur ce texte. Si on les salue, ils ont sensibilisé, notamment pour dire qu'il n'y avait pas que le problème du chiffrement, même si on était un, qu'il y avait effectivement le problème de boîte noire pour que les services de police puisse se connecter se brancher sur les appareils connectés pour récupérer des infos. Il y a eu énormément d'enjeux sur ce texte. D'ailleurs, on vous invite à aller consulter le site de la Quadrature du Net si vous voulez plus d'infos. Ce qui est positif, c'est qu'il y a une saisine sans surprise. Donc, on verra ce qu'elle donne, hein, notamment sur cette extension dans le cadre de la commission mixte paritaire d'un procédé qui paraît quand même assez exorbitant par rapport au droit commun. Donc, il y a eu une saisine qui a été enregistrée hier, donc le 12 mai, du Conseil constitutionnel. On verra ce que ça donne.
Ah d'accord, c'est tout frais. Ouais, dis donc, t'es bien renseigné.
J'ai regardé tout à l'heure et j'ai vu saisine enregistrée le 12 mai sur le site de l'Assemblée. Alors on pourrait faire un. Est-ce que vous avez d'autres réflexions sur cette actu?
Bah juste que ça n'arrête pas. Au niveau européen, il y a des choses similaires, il y en a dans tous les sens, et c'est en fait quand ça ne passe pas, c'est remis remis au
à l'ordre du jour.
Ouais, à l'ordre du jour un an après, deux ans après. Donc je sais pas combien de temps on va pouvoir arriver à échapper à une dystopie en fait. Petit à petit, ça se resserre en fait.
C'est compliqué.
C'est un peu ouais. C'est un peu flippant.
Alors avant d'avancer sur un sujet suivant, j'en profite pour saluer le site hein, villerailtransport.com que je ne connaissais pas donc, et qui a le très bon goût de mettre le lien direct vers la décision dont elle parle. Alors c'est une pratique qui devrait être banale mais absolument, qui est malheureusement assez rare, et là c'était un vrai plaisir, j'ai pas eu à passer par un moteur de recherche pour retrouver la décision, il était directement en lien dans l'article, c'était super. Merci à
ce journaliste. Tu me réabonnes au journal, j'étais abonné depuis l'âge de 11 ans et j'ai pas renouvelé récemment.
J'ai été abonné, mais ça s'appelait La Vie du Rail, et maintenant,
oui, c'est ça.
C'est ouais. Ville, Rail et Transport.
Ah, j'ai même pas fait attention au changement, parce que il y avait La Vie du Rail qui était le truc, initial. Ça s'appelait notre métier avant, c'était le truc des cheminots, ensuite c'est devenu La Vie du Rail, c'est devenu plus,
puis La Vie du Rail et les Transports.
Et après, il y a eu La Vie du Rail et les Transports qui était plus, un peu moins technologie ferroviaire et plus, décideur, entre guillemets, donc c'était la version, bi-hebdomadaire qui était moins, qui intéressait moins les ferroviopathes comme moi. Il y a aussi Rail Passion dans la série.
Je vous invite à poursuivre vos réflexions après l'émission, mais vous avez peut-être un peu des auditeurs et auditrices qui sont intéressés par ces sujets-là et on les salue, bien sûr aussi.
J'ai senti le pop-corn, là, c'est amusant.
Allez. Comme le temps file, j'aimerais quand même qu'on évoque un sujet qu'on pourra aborder rapidement et qui me semblait quand même important à évoquer pour soutenir cette initiative. Il y a une pétition en cours pour défendre la Wayback Machine. Alors Pierre, c'est toi qui a relayé cette pétition. Est-ce que tu veux nous en présenter rapidement
les
enjeux?
Oui, très vite. C'est un procès parce que la Internet Archive, donc
il faut présenter ce que c'est. C'est vraiment un projet c'est essentiel.
Internet Archive, c'est un projet essentiel qui archive le web. C'est une sorte de dépôt légal du web, mais indépendant. Il y a des initiatives en France pour dépôt légal, mais qui ne concernent que les sites français. Donc en fait, c'est utilisé par des journalistes pour récupérer des pages d'articles qui ont disparu suite à des polémiques. Enfin, ça a une énorme importance. Ça n'archive pas tout parce que c'est impossible, mais ça archive pas mal de trucs essentiels, de choses essentielles. Et là, à la marge, un de leurs sous-projets, c'était d'archiver les disques 78 tours. Pour ça, les 78 tours, alors même moi, j'ai pas connu ça. Ça a été arrêté d'être fabriqué dans les années 50. C'est des trucs de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, parce que ça a été éradiqué par le micro-sillon, les disques vinyles, etc. Donc c'est des choses qui essentiellement n'ont plus d'intérêt commercial. C'est des choses qui sont pour beaucoup d'ailleurs dans le domaine public.
Tu l'as dit, ça n'a plus aucun intérêt commercial.
Voilà, c'est du tuneur aussi, du Charles Trenet, tout un tas de choses. C'était ça a commencé dans les années 20, donc c'est très ancien. Mais les ayants droit ont décidé de d'attaquer. En fait, ils demandent 700 millions de dollars d'indemnité, enfin de préjudice à Internet Archive. Ça veut dire que si le truc est accepté par la justice, ils ferment la porte parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Quoi. Voilà. Ça les met en faillite directement. À la limite, c'est même pas forcément pour défendre le projet 78 tours, sachant qu'on peut quand même le défendre en tant que tel, mais c'est pour défendre tout ce qui est autour qui risque de couler du jour au lendemain.
Et c'est vraiment un projet très... Utilisez-le, vous allez voir, c'est assez génial. On peut vraiment parcourir, on peut revenir sur l'histoire d'un site web, etc. Donc là, c'est vraiment typiquement une procédure Bayon. Alors malheureusement, la pétition est sur Change.org. Je dis malheureusement parce que bon, ils sont plutôt gourmands en données personnelles. Donc avant de signer, vous pouvez lire les politiques cookies, les politiques données personnelles, voilà, pour signer en connaissance de cause. Que ce soit, voilà, moi je pense vraiment une initiative, un projet à défendre. Donc je pense que c'est important de le souligner, Bookie.
Moi, je me pose la question, est-ce que tous ces ayants droit, ils ont l'œuvre originale? Parce que s'ils n'ont pas l'œuvre originale, ils devraient payer à Internet Archive le stockage de ces données. Et peut-être que si chaque ayant droit paye le stockage de ces données, que eux, manifestement, ils n'ont plus, mais ils veulent s'enrichir avec, et ben peut-être qu'on aurait les 700 millions, toi.
Et ben oui, c'est pas faux.
Mais voilà. C'est ce qu'on appelle une procédure Bayon. Le problème, c'est même si t'as 60% de chances de gagner un procès, est-ce que tu vas prendre le risque de perdre? Donc,
il y a eu des précédents en France parce que l'Internet permet effectivement d'archiver des choses qui sont oubliées par les détenteurs de droits eux-mêmes, ça permet de préserver des choses comme ça. Et il y a quand même les ayants droit qui ont réussi à faire passer, il y a une quinzaine d'années, une loi en France qui interdit de récupérer des œuvres orphelines comme ça pour les valoriser, en fait, les préserver.
On pourra dire que les grandes structures représentation des ayants droit, donc là, là, c'est les maisons de disques notamment, voilà, ne sont pas forcément les amis de la liberté, de la libre circulation, de la culture, de la connaissance.
Absolument.
Et de la culture.
Ils veulent diffuser la culture, mais uniquement quand ça passe par eux.
Voilà. Moyennant finance.
Oula, je vois qu'il est déjà à 16h42 et c'était l'heure que je m'étais fixée. Alors, il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués. Juste voilà, bon, on a vu alors Windows 11, on sait que ça va être une mise à jour obligatoire à venir, c'est bourré d'IA, donc c'est mauvais, notamment écologiquement, pour plein de raisons. Je lance juste un message, c'est peut-être un bon moment pour sensibiliser autour de vous, pour parler, voilà, pour sensibiliser et faire migrer autour de vous vers des systèmes d'exploitation libre qui sont maintenant de plus en plus accessibles et qui sont, d'un point de vue fonctionnel, au moins aussi bons, si ce n'est souvent bien meilleurs, que ce que peut proposer l'informatique privatrice. Donc peut-être profiter de ce moment où il va être obligé de passer et de mettre au rebut de vieilles machines qui fonctionnent encore très bien, mais qui n'ont pas les reins pour faire tourner un gros truc comme Windows 11, ça peut être un moment.
Ça a été bloqué sciemment par Microsoft, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. En fait, ça aurait pu passer. En fait, il y a des contournements qui existent d'ailleurs, hein, pour donc comme quoi c'est pas une impossibilité technique.
D'accord. Mais profitons plutôt que de voilà de contourner. Mais, et passer au libre.
Contourner, oui. Ben, c'est plus facile d'installer un Linux qu'un Windows maintenant sur un ordinateur nu. Hein. C'est Windows, c'est une catastrophe. Il faut des outils Windows pour installer Windows. C'est un peu dommage.
Voilà. Je vais me permettre de parler Linux. En Windows caca.
On a clé USB, ça démarre et on l'installe. Voilà. On n'est même pas obligé de l'installer pour le tester d'ailleurs. On peut le mettre sur une clé USB. Et ne pas réinstaller l'ordinateur si on veut juste tester. Donc il suffit d'avoir une clé USB pour tester Linux aujourd'hui.
Et il y a plein de gens autour de vous qui pourront vous accompagner si vous avez besoin. Vous allez sur l'agenda du Lib, il y a plein d'associations qui seront ravies de vous accompagner dans le cadre de vos installations, justement. Merci beaucoup, Bouki, Vincent, Pierre, pour ce temps d'échange. C'est un plaisir de discuter avec
vous. Merci à vous.
Merci.
Et je vous propose à présent de faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons une chronique d'Antanac sur l'identité numérique. Avant cela, nous allons goûter Devil's Gonna Get You par Dr. Desray. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Man, the devil's gonna get you. Sure.
Nous venons d'écouter Devil's Gonna Get You par Dr. Death, Ray, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. C'est by SA.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Je suis Étienne Gonu, nous allons passer au dernier sujet. Nous allons poursuivre avec la rediffusion d'une chronique d'Antanac, Que libérer d'autre que du logiciel, une chronique diffusée pour la première fois en novembre 2024. Le sujet, une critique percutante de la notion d'identité numérique. On se retrouve juste après, toujours sur Cause commune, la voie des possibles.
Identité numérique, voilà deux mots que je n'avais avant jamais imaginé possible de mettre côte à côte, mais en fait si, identité et numérique, on y est. On sait pourtant qu'elle n'est pas donnée une fois pour toutes, l'identité, qu'elle se construit et se transforme et qu'elle a, selon le point où on se trouve, selon le temps de vie, temps du monde, temps du rêve, des significations, des sens et des charges différentes qu'elle prend corps, couleur, forme, importance très très variée. Elle sera pour les uns, pour les unes, axée sur une couleur de peau, un genre, pour d'autres elle sera religieuse. Pour d'autres encore, la penseront nationale, d'autres sur les pratiques, des modes de vie, des cultures, que sais-je, une langue, un drapeau, un territoire, je comprends, mais numérique. Je reprends un extrait dans le livre de Amin Mahalouf, Les identités meurtrières, je cite « On ne sait jamais où s'arrête la légitime affirmation de l'identité et où commence l'empiètement sur les droits des autres. Ne disais-je pas tantôt que le mot « identité » est un faux ami ? Il commence par refléter une aspiration légitime et soudain il devient un instrument de guerre. » Certes, ici, dans le sujet de ma chronique du mois, c'est plus l'identité individuelle dont il est question, celle dont on est affublé, notamment par l'administration, et ce, très tôt, en Occident en tout cas, juste après quelques heures de présence au monde. Un nom, un prénom, un état civil. Depuis la Rome antique, comme les classes sociales commencent à se mêler, il devient important de bien préciser le statut des personnes et d'établir avec certitude, sans contestation, l'origine et l'âge des intéressés. En France, plus tard, on renforce, et c'est François Ier qui renforce cette obligation, d'indiquer toute naissance, tout décès, et c'est l'Église qui s'est chargée de la tenue de ces registres. Bref, des papiers d'identité donc, et des documents qui prouvent ce que tu es, qui tu es. Et le glissement vers l'identité numérique s'est trouvé de fait comme logique, dès lors que les pratiques se sont numérisées. On parle d'abord d'identité numérique pour évoquer toutes les traces que chacun laisse sur le web, via ses navigations, les informations, par ailleurs collectées singulièrement par les GAFAM et autres avaleurs du même acabit, les noms, les pseudos, les images, les données de toutes sortes. Cette notion d'identité numérique n'est toujours pas très bien définie en droit, je crois. Mais pour autant, on entend tous les jours des affaires qui la concernent et qui engendrent une réputation qui va parfois bien au-delà de ce que la personne en question avait imaginé donner comme information sur elle ou sur sa vie. Une identité pour soi et une identité sociale. De nombreux écrits ont été réalisés sur les différents types d'identités, agissantes, déclaratives, civiles, narratives, virtuelles, etc. Beaucoup de qualificatifs selon des modèles différents d'analyse, mais toutes font comme si l'univers numérique était un. Un et un seul. Regardez le site de Wikipédia, par exemple, qui cite une flopée d'auteuristes dont les études et recherches sont assez globalement décrites de la même manière. Il n'y aurait qu'une et une seule façon d'être avec Internet, avec les dimensions dites virtuelles. Comme si la mondialisation et l'hégémonie du numérique avaient réussi à consolider, engloutir toute vision du monde et des rapports sociaux, et même des rapports à soi. Tous et toutes pareils, un rêve occidental d'universalisme qui serait exaucé. Et même les bidules, les pictogrammes qu'on appelle des émojis sont censés représenter tout le monde. Certes, ils sont jaunes. Le nom est emprunté au japonais. Il semble que cela veut dire image ou mot. Wikipédia indique même que ce serait un jeu de mots interculturel avec émotion. Emoji, emoji, emojion, émotion. Il relaie et remplace les émoticônes qui étaient faits avec des signes de ponctuation. Bon, depuis 2015, il y a eu des ajouts de couleurs, hein, de faces différentes, mais ce n'est pas en standard sur tous les appareils ou tous les logiciels. Il faut aller les chercher si on veut un visage non jaune, non blanc. Toujours est-il que désormais, ici en France, il faut, cela va devenir quasi obligatoire dans peu de temps, avoir une identité numérique. Vous avez le site France Identité. Il fallait le faire. On a France Travail, France Connect, France Bidule, France Identité. Et comme vous avez été très sage, et que majoritairement, vous avez très très bien accepté d'utiliser les QR codes, parce que n'est-ce pas, c'est tellement pratique. c'est bien pratique pour dire si vous avez ou pas le Covid. C'est bien pratique pour avoir le droit de sortir, pour aller au théâtre et avoir sur son ordiphone son billet. Pour manger au restaurant qui ne vous donnera bientôt plus de carte papier, mais un code collé sur la table sur lequel les plats seront indiqués. Bientôt d'ailleurs, vous pourrez passer vous-même la commande en cuisine. Plus de serveurs, serveuses, on gagne du temps et de l'argent. Alors, sur le site de France Identité, on lit la mention. Attention, pour des raisons de sécurité, seuls les téléphones iOS supérieurs à 16 et Android disposant d'un système supérieur à 10 permettront d'obtenir la certification de votre identité numérique France Identité. Oh là, vous changez l'ordiphone si vous n'avez pas le bon. Procuration de vote, envoi de lettres recommandées, déclaration de revenus, payer ses impôts, gérer un compte formation et bien sûr obtenir des pièces d'identité à l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Petit à petit, ces démarches rendent obligatoire d'avoir une identité numérique. On y va, doucement. Comme ça passe, avec un QR code, on continue. Tout ceci, bien sûr, pour votre bien. C'est bien entendu pour protéger, pour empêcher les usurpations numériques de cette identité. Et donc, sur le site de La Poste donc gère pour l'État ses identités numériques. Et là, on lit qu'il faut avoir 18 ans, détenir un document d'identité en cours de validité, carte d'identité française, recto verso, passeport français ou titre de séjour, attention, supérieur à 5 ans. Avoir une adresse en France, posséder un smartphone Android version 5 et suivante pour Android ou iOS version 11 et suivante et un numéro de téléphone mobile français, disposer d'une adresse mail et son mot de passe associé, être connecté à Internet. Et est-ce que vous voyez les situations que cela exclut ? Toutes les personnes qui n'auront pas ces prérequis. Je pourrais vous donner plein d'exemples, tellement on en voit en Tanakh. Des personnes dans des situations plus alarmantes les unes que les autres, et en tout cas des gens qui évidemment ne vont pas cocher toutes les cases. Une personne née à l'étranger, qui vit en France depuis 11 ans, mais n'a que des titres de séjour renouvelés tous les 2 ans. Bing ! Elle n'est pas dans la bonne case. Une autre qui est affublée de la date du 31-12-1992 ou bien du 1er janvier 1992. C'est pas les mêmes dates selon les documents parce que dans son pays de naissance, on a noté que l'année. Et alors quand les gens arrivent en France, on donne majoritairement on donne le 1er janvier, mais parfois ça change. Et du coup, ça change tout pour le calcul des droits. Une autre a un titre d'identité français, une adresse, un adresse courriel, mais pas d'ordiphone, comme j'en parlais dans ma chronique d'octobre. Alors, elle ne veut pas bénéficier d'une identité numérique, ni à La Poste, ni via France Connect. Parce qu'il faut absolument terminer sa demande avec un ordiphone et une application que tu vas télécharger obligatoirement sur Google ou sur Apple. Et il faut un numéro de téléphone français. Pourtant, elle a 25 ans, elle veut fermer l'auto-entreprise qu'elle a créée. Ben non, c'est pas possible non plus. Bon, nous continuerons en Tanakh de protester contre toute forme de discrimination. C'est pas si compliqué de rendre possible en fait une démarche avec une technologie si elle paraît opérante et de laisser à côté le choix, ou en tout cas la capacité aux personnes de faire autrement. D'autant plus que dans plusieurs cas, il s'agit en fait de supprimer des emplois, de baisser des coûts, soi-disant, mais de quel coût s'agit-il ? Versus plutôt de quel choix de société il s'agit ?
Merci Isabelle pour cette chronique percutante, très intéressante, et merci pour tout ce que vous faites à Antanac pour l'émancipation de toutes et tous. Ouais.
Merci, à bientôt.
Voilà, c'était la chronique Antanac sur le sujet de l'identité numérique, et merci, je le redis, merci Antanac pour tout ce qu'ils font. Nous approchons de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais on a évoqué les nombreux événements à venir là en mai et en juin. Je vais vous les reciter. La rencontre professionnelle du logiciel libre, les RPLLL, jeudi 15 mai à Lyon. Les JDLL, journée du logiciel libre, les samedis 24 et 25 mai à Lyon également. Dans les deux cas, l'April sera présente. L'April aura également un stand au Fair Festival qui sera organisé à Toulouse les 22, 23 et 24 mai. Une rencontre April aura lieu le vendredi 30 mai 2025 dans les locaux de l'April, Paris 14e. L'occasion d'échanger entre membres et soutiens de l'April, mais aussi d'accueillir de nouvelles personnes intéressées par nos sujets et souhaitant savoir plus sur nos actions. Tout le monde y est bienvenu, membre ou non, donc n'hésitez surtout pas à venir. Et l'April participera également au village des Geek Ferries du 6 au 8 juin. L'April et Framasoft proposent un programme de jeu pour s'initier au logiciel libre et quitter les services des GAFAM et découvrir l'IA sous une perspective un peu plus critique et drôle. Souffle bouquille. Et également, enfin mentionné, on l'a fait du vendredi 13 au dimanche 15 juin, le State of the Maps, une conférence autour d'OpenStreetMap. Si vous voulez découvrir ce projet,
Bourgogne. N'hésitez surtout pas à y aller. Ce sera à Tours du 13 au 15 juin 2025. Et je vous invite comme d'habitude à consulter le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org, pour y trouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous et les associations qui les font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Calame, Bouquinette, Pierre Pessac, Isabelle Carrère et aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'April, et Olivier Créco, directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite et Tunui, bénévoles à l'April, ainsi que mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org/247 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio Cause Commune. Le site, voilà, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les outils, des points d'amélioration. Vous pouvez nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse libreavoue.bonjour@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 20 mai à 15h30. Notre sujet principal portera sur les CRM libres, des logiciels de gestion de relations clientèle. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 20 mai. Et d'ici là, portez-vous bien.
Retour en FM à 21h et retrouvez nos programmes sur causecommune.fm et en DAB+ à Paris. causecommune.fm.
Cause Commune, à Paris et en Ile-de-France, sur la fréquence 93.1 FM. En écoute 24h sur 24 sur le DAB+ et sur le site internet cause-commune.fm.